Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Nous sommes à Flaïa pour la 3e édition du Festival des Bulles dans l'Espace. Je suis Ziad de Radio Vassivière qui diffuse la rencontre à suivre sur ses antennes. Informer ou militer, quelle approche pour quel dessin? C'est le thème de cette table ronde avec moi autour de la table, Fabienne Francisco, qui est dessinatrice de presse. Bonjour, attends, je vais te dire bonjour. Qui est dessinatrice de presse et illustratrice basée en Creuse et qui signe ses dessins Francisco. Salut Fabienne.
Salut Ziad.
Alors, peut-être une toute petite question avant de continuer à présenter les autres. Pourquoi tu signes Francisco, ce qui peut prêter à confusion?
Quand on voit
Francisco, on se dit c'est un
garçon.
C'est
mon nom de famille, effectivement.
Oui, bien sûr.
Et j'aime bien le côté qui peut porter à confusion.
Ouais. Pourquoi?
Ça met du suspense.
Ouais.
Et mon prénom plus mon nom, je trouve ça un petit peu long aussi. Et voilà.
Le suspense, c'est pas mal. Yann Fastier est également avec nous. Il est auteur, illustrateur et bibliothécaire basé à Limoges. Il a signé ou co-signé au moins une quarantaine d'ouvrages, en particulier destinés à la jeunesse. C'est ça, Yann ? Bonjour.
C'est ça, bonjour.
Ouais. Et les Ateliers de l'Adrienne, une association basée à La Nouaille, qui est représentée ici par Philippe Gadi.
Voilà.
Bonjour Philippe. Philippe, tu signes, toi, les illustrations d'IPNS, en tout cas une partie des illustrations d'IPNS, le journal d'information et de débat du plateau de Mille Vaches. Et on te doit le petit animal. Je pensais que c'était un putois, mais je crois que c'est un blaireau.
Ouais,
c'est
ouais,
ça
tout oui, tout le monde confond le putois et blaireau.
Non, comment on peut les différencier?
En fait, voilà.
Et donc, c'est un petit animal qui se promène, qui pousse les lettres.
L'idée est partie de...
Parle dans le micro, c'est
pardon.
Ouais. Voilà, ouais.
Michel Bernard, qui m'avait demandé de dessiner un petit blaireau en réponse à des propos un petit peu, on va dire un peu incorrects de la part d'un député qui nous avait tous, sur le plateau, traités de blaireaux.
Ouais,
sympa. Et donc, on l'a pris au mot, quoi. On s'est dit, on va se revendiquer blaireau. J'en avais déjà dessiné un quelques années auparavant. Je l'ai remis au goût du jour pour le journal IPNS. Et il apparaît occasionnellement comme ça pour illustrer certains articles.
Et oui, donc il illustre, il pousse les lettres parfois. Donc, il fait un peu une présence graphique, mais aussi une présence où il peut commenter. Par exemple,
il peut commenter.
Dans le dernier numéro, il propose d'aller passer des vacances au lac du Chamais. Si, attends, je l'ai là. il dit.
Oui, je l'ai pas.
Tu l'as pas lu, mais c'est toi qui as fait le dessin, peut-être, ou c'est peut-être pas toi.
Ouais,
quelqu'un copie
oui.
ton blaireau.
Par année, j'en fais toute une série.
Et donc, les vacances
au lac Michel, de piocher dedans pour illustrer certains articles.
Alors, Fabienne, on peut peut-être commencer avec toi. Tu as plusieurs activités en tant qu'illustratrice. Tu fais de la facilitation graphique. Tu fais aussi de la bande dessinée, des petites bandes dessinées.
Tu t'essayes
à la bande dessinée. Tu fais du dessin de presse, notamment, je crois, pour CQFD mensuel et pour une association qui s'appelle Canopée Forêt Vivante, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais. Alors, informer, militer. Toi, tu... Alors, il y a peut-être la séparation entre l'information et la communication dans informer ou militer. Toi, tu t'essayes aux deux, puisque tu communiques,
oui.
Tu fais de la facilitation, tu essayes de faire comprendre des choses par le
c'est
dessin.
Ça, ouais.
Et tu informes aussi, ou tu commentes l'actualité dans tes dessins de presse.
Oui. Je suis un peu... Après, je me considère pas comme une vraie militante. À dire, je suis un peu la militante de bureau. Ouais, donc, du dimanche, quoi.
Ouais.
Je suis assise derrière mon bureau et... Et dans mes dessins de presse, en fait, j'essaye de porter un regard un peu critique et j'essaye de me moquer avec les caricatures, ce que permet de faire le dessin. Et militer, c'est aussi informer, puisqu'on rend visible quelque chose que certaines personnes ne veulent pas forcément montrer. Donc il y a un peu les deux dans le militer et informer.
Et quand on dessine pour la presse, il y a un enjeu quand même, c'est à la fois d'ingurgiter, de s'alimenter de l'actualité, mais en même temps de la refaire passer avec un regard, avec quelque chose qui va faire tilt, quoi. Qui...
Ouais, c'est comment toute la complexité C'est pas évident de traduire en une image, parce qu'il faut qu'il y ait vraiment... c'est un dessin, c'est pas un strip, c'est pas une BD qui peut... Enfin, une idée qui peut se découper sur plusieurs temps, donc... Il faut trouver une idée très synthétique et une accroche aussi, un texte qui soit pas trop long. Parce qu'il faut qu'il y ait un impact rapide.
Et il faut porter un regard, quoi. C'est-à-dire il faut être là.
Et c'est ça qui est pas évident de donner un effet de surprise. En fait, c'est ça que j'aime dans les dessins de presse, c'est qu'il y a un petit effet de surprise et de changer de point de vue, d'apporter un regard un peu décalé et essayer de faire rire, parce que se moquer, en fait, c'est important, je trouve, pour prendre un peu de recul sur la réalité, l'actualité.
Et comment tu fais, toi, du coup, pour faire des dessins de presse?
Je m'informe beaucoup. Alors après, j'ai un peu levé le pied, parce que l'actualité, au bout d'un moment, c'est un peu c'est trop chargé. Et puis ça va tellement vite. On n'a pas le temps d'assimiler les choses. En fait, c'est presque du cinéma, quoi. Enfin,
et puis c'est presque burlesque.
Oui, voilà,
tout en n'étant pas drôle,
en fait,
du tout. C'est
clownesque. Le dessin de presse, il doit être caricatural. Et en fait, là, la réalité, elle dépasse la fiction. On est déjà dans une caricature. Il y a un changement permanent de personnalité publique qui fait qu'en plus, dans le dessin, il faut essayer de faire des caricatures. Ça demande un petit peu de temps. Il faut analyser les visages. Il faut essayer d'en sortir des traits caractéristiques. Donc les premiers ministres, ils ont changé, tout ça va très vite, quoi. Et je trouve que c'est plus difficile d'avoir un certain recul. Et après, enfin, donc moi donc là j'ai fait une petite pause, mais on va dire que l'année 2023 j'ai été plutôt productive, même si j'ai peu publié, hein, dans CQFD mensuel. Et après, j'ai travaillé pour moi. Pour
t'as un blog où on peut voir tes dessins et on peut les voir en ce moment à la médiathèque à Felletin. Ouais. Il y a une exposition pendant encore un mois ou deux.
Jusqu'à
fin mars, ouais, c'est ça.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus.
Donc que tu t'étais entraîné sur 2023, enfin voilà, que t'avais beaucoup dessiné.
Je me suis beaucoup informé. J'essaye de regarder, un peu de diversifier mes sources, donc des médias indépendants, c'est hyper important. Et aussi, j'aime bien voir la différence avec des médias mainstream et voir comment l'actualité elle est traitée, pas de la même façon. Et militer, finalement, c'est un peu donner connaissance, enfin. Informer sur quelque chose qu'on ne souhaite pas forcément montrer.
Et est-ce que tu fais du dessin militant ou est-ce que tu participes à des campagnes et tu dessines ou tu...
Là, en l'occurrence, pour Canopée Forêt Vivante, je fais des dessins qui illustrent certains de leurs articles.
Ouais.
Donc il y a un côté quand même...
informatif.
Et un peu engagé, puisque c'est défendre une certaine vision de la forêt. Mais après, la frontière, elle est assez mince, en fait. On peut militer aussi avec du dessin qui ne soit pas forcément caricatural. Mais moi, j'aime bien le côté, dans le dessin de presse, le côté se moquer et rendre un peu, en fait, les personnes qui ont un grand pouvoir, en fait, les rendre petits. Parce que moralement, éthiquement, ils sont petits. Et j'aime bien en faire des petits personnages.
Mignon.
Non. Mignon.
Yann Fastier, on se tutoie, ça te va?
Ça me va.
Ça te va, super. Toi, tu es auteur ou co-auteur de très nombreux ouvrages, plus d'une quarantaine. Ouais.
51,
voilà. C'est ton âge aussi. Non, peut-être.
J'ai plus.
Des livres pour enfants, des livres, mais aussi des romans. Dernièrement, tu as publié des romans en jeunesse.
Je fais plus de romans maintenant, en fait.
Ok, tout le monde a arrêté, en fait.
Ouais, j'en ai marre.
C'est parfait. Tu es aussi bibliothécaire ou tu as arrêté aussi?
Bientôt, j'arrête. Quelques années.
Spécialisé jeunesse aussi ou...
J'ai commencé spécialisé jeunesse. Maintenant, j'ai grandi. Je suis secteur adulte.
Alors, tu as aussi écrit des livres plutôt pour adultes. Tu as écrit et illustré un livre sur Guingouin, le résistant, qui là s'adresse peut-être plus aux adultes.
Ouais. À la base, ce serait plutôt collégien. Enfin bon, mais l'idée, c'était quand même de faire un livre jeunesse sur ce sujet-là, puisque ça n'existait pas.
Ouais.
Il y avait déjà des livres sur Guingouin, mais destination des adultes et plutôt pour un public local, puisque c'était des éditeurs locaux. Et donc là, l'idée, c'était de faire un livre sur Georges Guingouin, à la fois pour les jeunes.
Figure de la résistance dans le Limousin.
Chez un éditeur. National, on va dire.
Tu as un travail qui est très graphique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, c'est ce qui
si
vient
ça
à
veut
l'esprit.
Dire que j'en ai bien chié.
Il y a du dessin beaucoup, beaucoup de couleurs, parfois bon, de la peinture aussi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a de la peinture. D'une manière générale.
C'est même pas moi qui ai fait les couleurs.
Okay. Voilà, il y a aussi, on a l'impression parfois que c'est des collages, quoi, qu'il y a un jeu.
J'utilise beaucoup de techniques différentes. Ouais. On fait beaucoup la linogravure récemment, quand même. Les derniers albums, c'est beaucoup de la linogravure. Gravure sur bois, j'aimerais bien essayer aussi prochain. Bon, c'est vrai que je me suis un peu dispersé au niveau du coup, je maîtrise pas tout quoi.
Et tu as un choix de personnages, donc Guingouin, Zapata. Là, j'ai un livre donc jeunesse qui s'appelle Zapata est vivant, qui laisse imaginer qu'il y a quand même pas mal d'engagement dans ton travail, dans tes choix.
Oui, de plus en plus. En fait, j'ai pas mal réfléchi sur ces questions-là et j'en suis venu un peu à me dire qu'il fallait choisir mon camp quoi, à un moment. Oui. Mais disons que quand on travaille pour la jeunesse, c'est un petit peu particulier parce qu'on ne peut pas imposer vraiment un savoir ou une croyance ou un credo quelconque, qu'il soit politique, religieux ou autre, parce que bon, du coup, ça devient très vite du prêchi-prêcha. Donc, moi, vraiment, la démarche que j'essaye d'avoir vis-à-vis des albums jeunesse, c'est de poser des questions. Je ne maîtrise pas forcément les réponses. Je pense que ce que l'auteur doit maîtriser vraiment de façon très, très pointue, c'est les questions qu'il pose. Après, les réponses, c'est au lecteur d'apporter sa propre réponse. Alors, ce n'est pas du flou artistique dans la mesure où on maîtrise vraiment beaucoup la question, mais pas forcément la réponse. Moi, je n'ai pas les réponses aux questions que je pose, forcément. Alors, évidemment, un album comme Zapata est vivant, c'est un petit peu particulier. Ouais. Alors, on est déjà plus dans un... c'est presque une chanson, quoi. En fait,
pourrait dire presque une campagne d'affiches.
Oui, c'est presque ça.
Ouais. Ce qui est drôle, c'est que c'est construit complètement comme un livre pour petits-enfants, avec des dessins qui occupent beaucoup de place, un tout petit peu de texte. Mmh. Mais peut-être que les petits-enfants ne comprendraient pas, parce que tu dis, donc, sur une page, ils ont tué Zapata. Donc, on voit Zapata mort, quoi. Voilà. Et sur l'autre page, ils l'ont tué quand il était, quand il était forêt. Voilà. Mais Zapata n'est pas mort. Et là, donc, tu montres une forêt, contrairement à celle de la page d'avant, qui est pleine de couleurs et qui est vivante. Et puis, tu continues. Ils l'ont tué quand il était rivière. Mais sur le dessin suivant, Zapata n'est pas mort. Donc, c'est pratiquement un message politique. C'est induit. Il n'y a rien d'affirmé. Et je me dis que peut-être que les enfants seraient... ils se poseraient des questions. On ne sait plus à qui tu t'adresses, mais ce qui est très chouette, d'ailleurs.
Je crois que je n'ai jamais trop su à qui je m'adressais, en fait. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge quand on fait un album. L'album est souvent considéré comme étant limité aux enfants, alors qu'en fait, c'est juste une forme narrative, comme la bande dessinée ou... peut-être plus lié au livre, à l'objet livre, mais c'est une forme narrative. Donc moi, je ne considère pas que c'est un album pour les petits. Après, j'en ai fait aussi pour les petits, c'est différent. Mais là, du coup, je me suis permis d'être un petit peu plus directif, on va dire.
Et donc, si on revient au thème qui nous rassemble, de manière peut-être un peu artificielle, mais c'est le jeu, informer ou militer, toi, tu essayes d'être un peu entre les deux, c'est-à-dire de donner le sentiment d'informer et de laisser les gens...
Leur laisser une certaine forme de liberté. Après, les livres sont très différents entre eux. Par exemple, Guingouin, celui sur Guingouin, c'est vraiment un documentaire. Là, on est dans l'album documentaire pur, donc je me suis vraiment plongé dans la documentation. Alors que Zapata, c'est plus un truc d'imprégnation, on va dire. Donc là, on serait presque dans le slogan militant, quoi, effectivement. Et puis d'autres albums qui sont vraiment plus de l'ordre de l'interrogation, qui sont plus des albums pour faire réfléchir, en fait, des objets de débat, comme je pense un qui n'est pas là, qui s'appelle Corrida, qui est un album sur la violence en tant que spectacle. Bon, là, c'est vraiment un album objet de débat, on va dire, où tout est ouvert, en fait. Donc ça, c'est plus proche de la démarche que j'essaie d'avoir dans la littérature jeunesse, en fait. Par contre, c'est vrai que j'ai mes convictions. Même si je ne veux pas les imposer aux enfants, mais par contre, quand j'écris des livres pour les plus grands, là, je pense que je peux plus les affirmer, que ce soit dans les romans ou dans des albums. Voilà.
Et tout à l'heure, tu disais que tu utilises plein de techniques, que tu explores en permanence. Est-ce qu'en fonction des sujets, en fonction de tes intentions, tu vas te dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais comme technique pour ça ou
C'est plutôt un truc visuel, en fait. Il y a, par rapport au tel sujet, je vois telle technique, quoi. Enfin, je vois une image comme ça, je me dis, ouais, tiens, comment je pourrais faire ça, donc. Puis j'essaye de... Bon, bah, du coup, le résultat n'est pas toujours... Enfin, je ne me considère pas vraiment comme un dessinateur, en fait. Je ne suis pas un super dessinateur, quoi. Donc, c'est plus une question de conception d'un objet, de concevoir l'objet. Et comme je suis pauvre, je fais texte et image, quoi. Je n'ai pas les moyens d'embaucher un dessinateur, comme ça.
Philippe, donc toi, tu as un parcours professionnel très, très divers.
Je crois que tu as
fait des millions de choses. Tu as été gardien de nuit.
Oui, non, mais comment tu sais ça?
Internet. Voilà. c'est pas compliqué.
Professionnellement, je suis jardinier à la base.
OK.
J'ai mon brevet d'études professionnelles agricoles, etc. Je m'étais lancé là-dedans. Mais on me demandait souvent de dessiner pour illustrer des choses. Alors, j'étais toujours en lien à cette époque-là, en particulier avec des étudiants en architecture. Donc, eux faisaient leurs projets, etc. Et ils me demandaient d'agrémenter tout ce qu'ils faisaient autour pour le rendre, entre guillemets, joli, quoi.
Dessiner les jardins, quoi, ou
voilà, les parcs et jardins. Et donc, et de plus en plus, j'ai fait ça, c'est au hasard des rencontres. Hein. On m'a demandé, de plus en plus des gens sont venus, enfin c'est de bouche à oreille, hein. On m'a demandé, tiens, est-ce que tu pourrais me faire un éclaté de cheminée supra pour... Oui, ok, d'accord, j'ai fait, bon, bah... Jusqu'à ces derniers temps où j'ai vu un type débarquer que je connaissais pas, qui s'appelait Jean-François Laguioni, qui me demandait de venir travailler sur un film d'animation. J'ai jamais fait de l'animation. Enfin, tout a été fait comme ça. Enfin, j'ai travaillé dans le secteur de la pub. Puis bon, le milieu de la pub, là, franchement, ça m'a un petit peu... Donc, je me dis, je veux travailler pour l'édition. Donc j'ai travaillé pour l'édition. J'ai travaillé pour l'univers du jeu, des jeux de plateau, etc. Et là, les derniers temps, je faisais du manuel scolaire et parascolaire. Mais je n'ai jamais travaillé en tant qu'auteur, véritablement. C'est pour ça que par rapport à la question de est-ce que je revendique quelque chose à travers mes dessins, est-ce que je veux faire passer quelque chose, je me positionne plus comme illustrateur...
Au service de... C'est ça
illustrateur de propos qui ne viennent pas de moi forcément, quoi. Donc et même lorsque j'ai eu l'occasion d'illustrer des articles militants, pour le coup, j'avais besoin de comprendre, moi, il faut, je peux pas parce que dessiner comme ce que j'ai pu faire à l'occasion dans IPNS, c'est un coup de poing sur la table qui arrête quelque chose, un propos, on percute à un moment donné. Dans un texte, il y a un passage qui percute plus que l'autre. Et c'est là-dessus que je vais appuyer sous la forme d'un dessin. Mais je peux ne pas être d'accord avec ce qui est dit. Mais moi, c'est mon interprétation, enfin la retranscription graphique, on va dire, d'un propos qui me semble important d'entendre, que l'on soit pour ou contre, peu importe. Mais je me dis là... C'est un petit peu appuyé là où ça fait mal, quoi. C'est pour ça que le blaireau, c'est pratique, parce que c'est un animal un peu qui a sale caractère, qui je me souviens, bon, tous les dessins de son papa parus dans IPNS, hein. J'ai fait des dessins, par exemple, là j'ai mis sur la table quelques dessins de
sur la table de, donc dans
oui, 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 oui,
des voilà, bulles dans l'espace
de blaireau, dans un particulier, on voit le blaireau avec son baluchon sur la tête, baluchon sur l'épaule, en se disant bon, je me casse, bande de consanguins, etc. Enfin, c'était sur un article à propos des locaux et des nouveaux arrivants, etc. De la mésentente qu'il pouvait y avoir. Et bon,
il n'est pas paru.
C'est peut-être
lui qu'ils ont recyclé, parce qu'il y a le même dessin où il dit je vais passer des vacances au lac Chamais, au lac du Chamais.
Ah, ben bah voilà, ça, très bien, voilà. Donc ils l'ont recyclé. Donc rien n'est jamais perdu. Mais tant mieux, quelque part. C'est réapproprié pour des messages. Enfin, le dessin en soi, moi, je ne revendique rien en particulier. Moi, par nature, il me faut beaucoup plus de réflexion. Je suis tout le temps dans le doute. Hein. Je peux difficilement. Bon, sur les questions de violence, par exemple, bon, ça, c'est évident que je pourrais avoir quelque chose de plus revendicatif, plus arrêté dans mes propos, mais la plupart du temps, je reste un illustrateur de...
Ouais, au service de l'article, au service de ce que tu illustres.
Et j'ai parfois illustré des articles sur lesquels je n'étais pas du tout d'accord.
Et tu n'as pas réussi à le dire dans le dessin, ou tu l'as suggéré?
Il y a toujours, si on regarde bien, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête là, mais je place quand même des petites touches d'énervement quand même à côté. Il y a toujours la petite comme coccinelle de Gottlieb qui est là en second plan pour raconter autre chose que ce qui est développé au premier plan.
Alors évidemment, ton blaireau, il m'a fait penser à un autre petit animal, une petite souris.
Oui.
Et je vous propose d'écouter Jean Plantureux, alias Plantu. C'était il y a 15 ans, en 2010, au micro de RFI. Il parle de comment il dessine, lui. C'est rapide, hein, c'est très court. Et puis, on pourra peut-être en discuter tous et toutes ensemble.
Bon, écoutez, je suis passionné par la vie politique. J'aime le métier des femmes et des hommes politiques, qu'ils soient français ou étrangers. Et à chaque fois, j'ai toujours envie, cette passion. Je pensais qu'un jour, ça se calmerait. Mais j'ai toujours cette passion grandissante de traduire qu'est-ce qui me fait bondir, parce que des fois je suis content, des fois je suis pas content, et en fait cette manière de bondir, en fait on peut la traduire en dessin, et c'est ça qui me plaît le plus. Et c'est vrai que les événements qui nous viennent, par exemple la Côte d'Ivoire ou le Gabon, me donnent l'occasion de faire des dessins en pensant à mes amis dessinateurs de ces pays-là, parce que des fois c'est pas toujours simple d'exprimer une opinion, déjà en France. On a déjà des tabous, hein, en France. Et de toute façon, il est bon quand même de savoir jusqu'où on peut aller en fonction de la culture et des croyances, d'ailleurs. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec Pov. Eh bien, des fois, il faut savoir où on met les pieds, hein, sur les religions. Il faut dire des choses. Et puis, par exemple, il y a certains endroits en Afrique, par exemple, où l'évangélisme assez forcené est assez présent dans certains pays. Écoutez, il faut faire attention, comme il faut faire attention avec les vaudous, par exemple. Et donc, c'est pas la peine d'humilier inutilement les gens. Mais faut déranger. Le dessinateur de presse, c'est le dérangement.
Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui dit Philippe? Ouais.
Oui, non, mais je comprends son approche. Ouais. C'est vraiment de pointer, de synthétiser dans un dessin simple. En fait, le côté percutant du message qui est développé par écrit. Mais en un seul dessin, c'est vrai que l'exercice de devoir synthétiser ça. En quelques traits, c'est un défi qui, personnellement, qui me plaît bien, mais qui correspond, j'imagine, à la démarche qu'ont beaucoup de dessins de presse, dessinateurs, dessinatrices de presse.
Fabienne?
En fait, c'est donner à penser, à réfléchir, faire interroger.
Et c'est égratigner aussi, ce qui est pas facile, quoi. Faut trouver le, enfin,
ouais, faut trouver
dans la méthode Plantu, en tout cas, faut trouver le bon ton, la bonne distance.
Ouais.
Peut-être pas blesser, mais
C'est voilà. Ça qui est pas évident. Il y a aussi un peu, je pense qu'il y a pas mal de dessinateurs qui s'auto-censurent un petit peu parce que maintenant tout est assez sensible. Et des fois, ça peut arriver qu'il y ait des dessins qui soient interprétés dans le sens contraire de celui qu'on souhaitait donner, donc c'est pas évident, en plus de prendre du recul, parce que c'est un travail qui est plutôt solitaire, donc des fois le sens peut échapper au dessinateur, et là ça peut être un peu compliqué.
Yann, qu'est-ce que ça t'inspire? D'abord, je t'ai pas demandé, mais est-ce que tu as fait ou tu t'es essayé au dessin de presse?
Non, pas vraiment. ça pu m'arriver, mais vraiment de façon très très sporadique. Non,
attends, informer, c'est pas du tout que le dessin de presse.
Oui, voilà. Bon, du coup, non, au niveau du dessin de presse, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment pratiqué, en tout cas de façon suffisante pour pouvoir en parler, quoi. J'ai pas vraiment de théorie là-dessus.
Mais en même temps, quand tu écoutes Plantu qui parle de sa manière de travailler, de cette qu'il faut pas blesser, mais qu'il faut égratigner, ou qu'il faut trouver le, c'est quand même quelque chose, enfin, en tout cas c'est toi, tu es à la fois auteur et dessinateur, ça doit être des questions que tu te poses en permanence.
Et lecteur.
Et lecteur.
Le dessin de presse, j'en lis aussi. Voilà. Après, ouais, je suis d'accord. Sur le fond, je suis d'accord avec ce que dit Plantu. Après, Plantu me fait rarement marrer. Mais bon. Mais bon. Oui, de toute façon, il faut arriver à trouver, je pense, un angle qui est très, très précis et très... Enfin, c'est vraiment un travail d'équilibriste, je pense, qui est assez rude, je pense.
Philippe, tu voulais parler.
Oui, ouais. Justement, par rapport au dessin d'humour, il y a vraiment deux catégories, quoi. Le dessin de presse, c'est pas forcément du dessin d'humour.
Ouais.
On cherche pas forcément à faire rire. Hein.
Oui.
C'est, l'intérêt, c'est de déranger un peu le lecteur pour qu'il s'interroge lui-même. On ne lui apporte pas les réponses à travers le dessin ni à travers le texte dans l'absolu. Mais si ça peut le faire réagir, même parfois de façon inconfortable, que ça fasse écho dans sa réflexion, que ça l'amène à ruminer les sujets qui sont abordés, c'est pas là... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas prétention d'apporter une réponse aux questions qui sont soulevées à travers un article. C'est, tiens, là, tu dois, là, ça gratte, hein, ça fait mal, hein, ou ça te fait rigoler. Machin, bah, va plus loin. Enfin, inviter vraiment le lecteur à ne pas s'arrêter à la réaction émotionnelle, etc. Mais c'est par l'émotionnel qu'on va pouvoir peut-être... enfoncer une brèche quoi pour amener à la réflexion et au-delà et puis alimenter un débat qui n'en finira pas de toute façon quoi.
On va bientôt peut-être ouvrir aux questions du public si vous le souhaitez. Juste avant, donc je disais tout à l'heure, Plantu il s'exprimait en 2010, il disait des choses, donc il faut pas blesser, il faut pas égratigner, il faut faire attention aux religions. J'imagine que si c'était exprimé en 2015 ou en 2016, il aurait probablement pas dit la même chose parce que ça n'avait pas la même portée en France. Quand on s'interroge sur le milité ou informé par le dessin, on peut pas oublier qu'il y a 10 ans, il y a 5 dessinateurs de presse qui ont été assassinés dans leur rédaction à cause de leur dessin. Et le soir même, Mediapart avait organisé une veillée et je me suis souvenu de ce qu'avait dit David Servenay, qui est un des cofondateurs de la revue Dessinée, qui lui n'est pas dessinateur mais journaliste. Alors je vous mets la totalité de son témoignage, c'est très court, ça fait je pense à peine une minute ou deux, mais ce qui m'a interpellé, c'est ce qu'il dit à la fin. Mais bon, on peut écouter tout son témoignage qui va nous replonger dans ce 7 janvier terrible. C'était le soir même, on écoute.
Une fois n'est pas coutume, je vous raconterai ma journée parce qu'il se trouve que par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé dans une situation de spectateur là où j'aurais dû être journaliste, puisque je me suis retrouvé une demi-heure à peu près après les faits, dans le quartier avec ma fille. On avait un rendez-vous chez le médecin. J'ai vu se déployer espèce de barnum habituel avec les policiers, les pompiers, etc. Et puis, je suis ensuite rentré chez moi. Il a fallu que j'essaie d'expliquer à ma fille, 6 ans, ce qui s'était passé. Parce qu'elle l'avait vu, ses pompiers, ses policiers. Elle voulait essayer de comprendre. Et là, je me suis dit, c'est difficile d'expliquer ça à un enfant de 6 ans. Et ça rejoint sans doute une de nos problématiques professionnelles, qui est celle de la transmission. Comment on va désormais travailler? Comment on va expliquer au quotidien nos objectifs, notre travail, etc. Et ça m'a fait penser, moi j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui parce que ça m'a refait penser à une expérience personnelle. Dans ce métier, on a quand même eu pas mal de confrères et de consoeurs qui sont morts. J'ai travaillé avec Joanne Sutton qui est morte en Afghanistan en 2001, quelques semaines après les attentats du 11 septembre. Et ça a jamais modifié ma façon de travailler parce que ça m'a touché personnellement et ça m'a fait réfléchir à la façon dont on fait ce métier. Et je me disais que après ce qui s'est passé aujourd'hui, forcément, on travaillera plus exactement de la même manière que ce qu'on faisait avant le 7 janvier 2015. Et ça nous renvoie à un questionnement qui a affleuré, je pense, chez à peu près tout le monde. C'est demain, comment on va continuer à pouvoir faire notre travail et notamment comment ces dessinateurs qui sont, moi je l'ai découvert avec l'aventure de la revue dessinée, qui est une aventure collective, et ce qu'était Charlie Hebdo aussi, qui sont un peu, qui ont une force incroyable, parce qu'en fait quand on y réfléchit, un dessin, c'est quelque chose qu'on peut comprendre sans même savoir lire. Et du coup, ça a beaucoup plus d'impact, vraisemblablement, sur la société que ce que peuvent avoir nos plus belles enquêtes, nos plus beaux reportages, etc. etc. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard si, précisément, les gens qui ont mené cette opération ont visé un journal de dessinateurs, parce que ce sont des gens qui peuvent avoir une influence très importante sur notre société.
Une réaction ? Fabienne ?
Je repense à, je crois que c'est Cabu ou Sharp qui disait qu'un bon dessin de presse, c'était un coup de poing dans la gueule. Et en fait, c'est ce qu'il disait. Ça a plus d'impact qu'un texte quand c'est bien fait. Et parfois, il n'y a même pas besoin de texte. En fait, on voit tout de suite l'idée. Donc, ça a une grande force, oui.
C'est sûr qu'il y a certains dessins qui sont des documents d'histoire, en fait. Qui deviennent des documents d'histoire, qui sont même repris dans les manuels, des fois.
Comme ?
Comme la poire de je ne sais plus qui, d'ailleurs.
Ouais, je sais.
Louis-Philippe. Et puis beaucoup d'autres, je pense, j'imagine. Mais on doit tous rêver d'avoir un dessin comme ça. Sauf si on en meurt. Mais bon, je pense que c'est aussi une belle façon de rester dans l'histoire.
Est-ce que quelqu'un souhaite... poser une question, participer, etc. Auquel cas, je vous demanderai juste, comme on est à la radio, de prendre mon micro et de parler dedans. Est-ce qu'il y a d'autres dessinateurs, dessinatrices peut-être, ou des gens qui ont une expérience de cette frontière, la position, quelle position on peut entre l'information, le militantisme. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est différent d'une certaine manière, c'est juste, mais à l'arrivée...
Oui, à l'arrivée, ça dépend de l'information qu'on fait passer. Mais...
Et ça dépend du militantisme aussi.
Oui, personnellement, je parle à titre personnel. Hein, là, j'ai tout arrêté dans ma profession. Je ne suis plus illustrateur. J'ai laissé tomber mon statut, etc. J'ai souhaité faire un break. Réellement. Okay. Là, je reprends... on vient de monter une structure associative.
Les ateliers de l'Adrienne.
Voilà, les ateliers de l'Adrienne, qui avaient pour vocation de créer des petits ateliers pour les gamins, essayer de revenir à des choses plus fondamentales, qui se prêtent moins à débat, etc. J'avais envie de revenir un petit peu à l'essentiel. Et là, je m'aperçois que, mine de rien, je remets le doigt... On a vite fait de revenir sur des sujets d'actualité, comme tu disais. Enfin, ça change là en ce moment. On n'a même plus le temps de prendre le temps de penser, de digérer tout ce qui se passe, quoi. Et parfois, un dessin, ça permet de poser, de dire tiens, tel jour, voilà ce qu'il fallait retenir de ce que j'ai entendu. Ça m'arrive de le faire pour moi, par exemple.
Comme quoi, si tu... C'est-à-dire, t'entends quoi et tu fais quoi?
Je veux pas, parce que c'est des sujets, tout ce dont on entend parler, quoi. Enfin, surtout les sujets sociaux, économiques, politiques, géopolitiques. Enfin, ça, à un moment donné, je vais au jardin, quoi. c'est la période des semis et ça me va bien. Quelle était la question ?
Il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas.
Tu disais que tu avais tout arrêté.
Oui, tout arrêté, ouais. Parce que j'ai besoin d'un break et de revoir les choses un peu simples. Oui, c'est ça, c'est sur l'idée de la transmission. J'avais entendu parler de ça tout à l'heure.
C'est ce que disait David Servenet, oui, je crois, dans le témoignage. Oui. Ouais.
Transmettre sur des fondamentaux, mais pas sur des idées, qu'elles soient politiques, sociales, etc. Essayer de revenir à des choses... J'ai envie de faire du manuel de jardinage, de cuisine, de choses comme ça. Enfin, des choses qui sont beaucoup plus pérennes, intemporelles, on va dire, qui sont moins secouées par les sursauts de l'actualité, et revenir à quelque chose de plus, entre guillemets, académique, quoi, sur ce que l'on sait qui nous fait du bien au jour le jour, et qu'on a besoin de retenir, quel que soit le contexte dans lequel on baigne. Mais c'est vrai que le dessin de presse, c'est épuisant par moments, quoi. Quand on travaille...
Oui, oui. Surtout sur quand c'est des sujets qui polarisent beaucoup,
oui.
Qui donnent des réactions...
Et ça donne l'impression d'être déconnecté des réalités qui sont localement pas si dramatiques que ça, qu'on est pas mal ici. Donc il y a des choses aussi à transmettre de ce point de vue-là, quoi. Sont moins dans un voilà
moins anxiogène voilà. Peut-être qu'on peut se quitter si le public n'a pas de questions sur vos actualités. Je crois que les on peut commencer par toi Philippe, les ateliers d'Adrienne ont sorti un livre donc avec
alors
je crois qu'il y a le blaireau, comment il s'appelle il a un nom ton blaireau
alors je ne signe plus de mon nom
toi oui d'accord ok
alors moi c'est Gadoche tête de pioche, c'est le nom qu'on me donnait dans la cour de récré.
Okay.
Donc, ça m'énervait à l'époque, mais en me souvenant, je me disais, c'était sympa malgré tout. C'était...
Puis pioche pour un jardinier. C'est...
Voilà, Gadoche, ouais. Tête de pioche. C'est, voilà. Et, alors ce livre, normalement, les ateliers d'Adrienne, on devait initier. Là, je donne des cours, par exemple, dans les écoles de calligraphie. Je vais bientôt faire un atelier de linogravure, des choses comme ça pour les niveaux primaires. Hein. Je ne veux même pas aller monter en collège, ils sont déjà foutus.
Non, on ne peut pas dire ça.
Non, bien sûr que non. Mais disons que là, j'amorce, en tout cas, j'explore le domaine de la transmission via le primaire, à travers de petits ateliers. Et par manque de place, parce que je n'ai pas d'atelier véritablement, je ne peux pas inviter des groupes à s'initier à quelques techniques que je maîtrise, on va dire, à peu près. Donc, j'ai fait ce petit bouquin en me disant, tiens, ben, ça apportera des fonds à l'association. Et puis, on va se l'auto-éditer. Et il a eu pas mal d'impact, finalement,
ça localement. S'appelle comment? Parce que je n'ai pas pu le voir.
C'est l'histoire de
dans le micro, s'il te plaît.
Pardon, c'est l'histoire de notre rencontre avec ma compagne, quelque part romancée, sous la forme de... Dans un monde imaginaire, Choupine et Blaireau. Choupine qui est une petite sorcière un peu déjantée et Blaireau. Qu'est-ce qui pouvait les réunir alors qu'ils n'ont rien en apparence pour ce partage. Enfin bon, bref, voilà, c'était parti sur une petite idée comme ça sans prétention. Et finalement, ça donnait l'idée d'en faire plus. D'autres parutions sont prévues avec des carnets pratiques, pour le coup. Voilà. Puis pour le reste, je ne sais pas du tout quelle forme ça va prendre. Mais...
Yann, toi, tu t'es passé au roman?
Mais pas que.
Pas que, ok.
Non, je suis toujours sur les deux. Non, bon, quoi, non, je continue.
Bientôt. Ouais.
je ponce ma cage d'escalier aussi.
Okay.
ça prend beaucoup de temps. Et, j'ai eu quelques déboires éditoriaux récemment, ce qui fait que je n'ai pas publié depuis 2-3 ans. C'est-à-dire, il y avait des projets qui étaient prêts, mais les éditeurs ayant fait défection, ça n'a pas marché. Dont un qui s'appelait Les Anarchas, où j'ai fait l'illustrateur pour Grégoire Coq-Jean. Et actuellement, je travaille sur des projets, en fait, pour l'instant, qui n'ont pas encore vraiment débouché sur
des livres.
Des contrats.
Okay, des contrats.
Et donc, il y a un projet de roman qui se passe au début de la Seconde Guerre mondiale avec des avions. Enfin, c'est une histoire d'avion. C'est toujours pas mal la Seconde Guerre mondiale et des avions parce que ça permet de mitrailler des nazis. Donc, ce qui est toujours pas mal en ces temps, par les temps qui courent.
Puis de se dire qu'il y a des gens qui ont décidé de résister
de leur vie. En l'occurrence, ouais. C'est même pas tout à fait ça, mais enfin, bon, c'est un peu compliqué comme ouais. Histoire. Je vais pas... ça va pas se passer là où il y a la guerre. Mais bon, enfin, c'est... Et d'autre part, ben, je dois faire l'illustrateur pour un album qui reprend un texte qui était paru dans les années 70 sous forme d'album, Charles Lindquist, dont l'éditeur a récupéré les droits pour une nouvelle illustration, et puis le titre est assez explicite, c'est « À mort l'homme ». C'est le point de vue des animaux, quoi, sur les voilà, sur la relation avec les...
Tout est léger. Fabienne, alors toi, on l'a dit tout à l'heure, tu as une expo avec des dessins de presse et ta BD qui s'appelle RG ouais, Intergalactique.
Il oui, y a ouais. deux projets, les RG Intergalactiques,
ouais.
Donc des extraterrestres qui observe un peu les humains et leurs us et coutumes un peu bizarres.
Ils sont effarés.
Mais c'est vraiment un début de projet qui va être amené à évoluer parce que je ne suis pas forcément satisfaite de la forme finale, là.
Donc il y a des planches qui sont exposées à la médiathèque.
Il y a aussi un début de projet que j'aimerais bien présenter à des éditeurs où je me mets en scène et je raconte un peu la dure vie d'artiste, de se vendre, trouver l'inspiration, démarcher, puis en fait avoir des refus. Et je présente aussi un petit peu de graphisme. Et des planches de facilitation graphique, comme tu disais. Et voilà.
Et tu travailles sur tout en même temps ou t'as
C'est l'expo, mais en ce moment... Au gré de mes commandes, ouais. Ça dépend ce que j'ai. Là, dernièrement, j'ai refait des dessins pour Canopée. Pour le Salon de l'Agriculture, ils vont diffuser un petit livret de questions-réponses.
C'est en ce moment, non, le Salon
de l'Agriculture? Et j'espère d'autres commandes à venir. C'est assez fluctuant, hein, le statut, le travail d'indépendant. Donc, on verra.
Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous trois. Merci aux Bulles dans l'espace, au Café de l'espace à Flaya, à toute l'équipe. Et normalement, on pourra entendre cet entretien sur Radio Vassivière. À bientôt.
À bientôt.
On va remettre le public.